Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce temps de culte à vous qui êtes présents dans ce temple. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois ou habitués de ces bancs. Sentez-vous accueillis. C'est Olivier qui éclairera pour nous la parole de Dieu. Pour nous accompagner, il y aura Marie-Vonne à l'orgue et Théophile au violoncelle. Et Sophie sera avec Pierre, était avec Pierre à l'accueil fraternel, mais je crois qu'elle n'était pas toute seule. Il y avait plein de personnes. Nous chanterons les spontanés, que vous trouverez sur le feuillet en première page du recueil des cantiques, ainsi que les cantiques affichées au tableau. Il y a des recueils en grand caractère pour les spontanés qui sont au fond du temple, pour les malvoyants. Que chacun puisse recevoir aujourd'hui, avec faiblesse et humilité, ce que Dieu veut pour lui. Louons Dieu. Merci pour cette nouvelle journée. Merci pour la terre sur laquelle tu nous as placés. Merci pour ta lumière qui nous éclaire. Merci pour Jésus que tu nous as donné. Merci pour la vie qu'il nous apporte. Merci pour ton amour de Père. Merci d'être là, Seigneur. Merci de m'écouter et de me prendre au sérieux. Merci de recevoir ces quelques mots où je te dis ma reconnaissance. Merci, Seigneur. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le psaume 36 à la page 60, les trois strophes « Ô Seigneur, ta fidélité ».
Passe toutes ces mains.
pouvez prendre place. Seigneur, pardonne-nous nos silences quand il fallait parler. Pardonne-nous nos vaines paroles quand il fallait agir. Pardonne-nous d'avoir confondu l'Évangile avec nos fausses sagesses. Pardonne-nous d'avoir restreint notre service à ceux qui nous plaisent. Pardonne-nous notre médiocrité, notre manque d'amour et de générosité. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Et nous restons assis pour chanter le spontané. Pour accueillir une parole qui nous pardonne, telle que nous sommes, je vous invite à vous lever. Écoutez la promesse. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Il vous plongera en Dieu. Il vous immergera dans son amour, dans sa miséricorde et sa paix. Il noiera dans sa justice vos échecs et vos infidélités. Il vous inondera de force, de joie, de volonté nouvelle. Il vous immergera dans sa vie. Il vous offrira la vie. Chantons notre reconnaissance en restant debout pour chanter le spontané du pardon. À toi nos louanges.
À toi nos louanges.
Écoutons la volonté de Dieu d'après Matthieu 20, les versets 1 à 6, et Saint Jean Chrysostome. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, que celui qui est un serviteur fidèle entre dans l'allégresse, dans la joie de son maître, que celui qui a travaillé dès la première heure reçoive aujourd'hui son juste salaire, que celui qui est venu à la troisième heure se réjouisse en rendant grâce, que celui qui est arrivé à la sixième heure n'éprouve aucun doute, car il ne perdra rien. Que celui qui a tardé jusqu'à la neuvième heure s'approche sans hésitation et sans crainte. Que celui qui n'est apparu qu'à la onzième heure n'ait aucune peur du fait de son retard. Car le Seigneur est généreux. Il reçoit le dernier comme le premier. Il admet au repos l'ouvrier de la onzième heure, comme celui qui a travaillé dès la première heure. Il fait grâce au dernier, et il chérit le premier. Il donne à celui-ci, et il accorde à celui-là. Il reçoit l'œuvre, et il accueille l'intention. Il honore le travail, et il loue le bon propos. Entrez tous dans la joie de votre maître. Et nous chantons, pour aujourd'hui je sois libre. place. Donne-nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons écouter devienne bonne nouvelle pour nos vies. Amen. Et Pierre va nous lire les textes que commentera ensuite Olivier.
C'est dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, à partir du verset 19 et jusqu'au chapitre 4, au verset 2. Car la sagesse, à la manière de ce monde, est une folie aux yeux de Dieu. En effet, l'Écriture déclare « Dieu prend les sages au piège de leur propre ruse ». Elle déclare aussi « Le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles ne valent rien. » Ainsi, personne ne doit fonder sa fierté sur des hommes, car tout vous appartient. Paul, Apollos ou Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous, mais vous, vous appartenez au Christ et le Christ appartient à Dieu. Vous devez donc considérer comme des serviteurs du Christ. Vous devez donc nous considérer comme des serviteurs du Christ chargés de gérer les vérités secrètes de Dieu. Tout ce que l'on demande à un gérant, c'est d'être fidèle.
Merci.
Et nous chantons le spontané des lectures.
Bonjour à tous. Paul aborde ici deux thèmes majeurs du christianisme, à savoir, Dieu est-il puissant ? Et que, surtout, que pouvons-nous comprendre de sa puissance ? Et puis le deuxième thème, c'est, sommes-nous les serviteurs de Dieu ? Redisons les extraits de cette première lettre aux Corinthiens. Elle n'est pas simple du tout. Donc, je vous rappelle, c'est de 3, de 19 à 23, et 4, 1 et 2. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet, il prend les sages à leur propre ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Bon, il y a des traductions qui disent elles sont creuses, mais c'est pareil. Ainsi que personne ne fonde sa fierté sur des hommes, car tout est à vous, Paul, Apollos ou Céphas, le monde, la vie ou la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous, mais vous, vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Qu'on nous considère donc comme des serviteurs du Christ et des intendants des mystères de Dieu. Or, ce qu'on demande en fin de compte à des intendants, c'est de se montrer fidèle. Alors là, on est en pleine théologie, on a sous les yeux le christianisme en train de se construire. Ainsi, la pensée de Paul oscille-t-elle entre, d'une part, la conception antique de Dieu, fondée sur la crainte, et sur la dépendance vis-à-vis de lui, et d'autre part une compréhension plus actuelle, où l'homme bénéficie de sa grâce et de l'absence de rétribution de nos mérites, supposés ou avérés. Car il y a bien une contradiction dans le fait de penser que nous appartenons à quelqu'un, fût-ce à une entité divine, alors que la grâce inconditionnelle de Dieu nous apporte la libération. Nous-mêmes, n'élevons-nous pas nos enfants afin qu'ils deviennent le plus libres possible? En tout cas, pas pour qu'ils soient nos serviteurs. Donc pourquoi Dieu, infiniment bon avec ses créatures, nous laisserait-il dans sa dépendance? J'ai toujours été surpris par la formulation des versets 22 et 23, toujours de 1 Corinthiens 3, « Tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu ». C'est un peu comme si la seule légitimité de l'homme, sa seule justification, pour employer un terme théologique, serait celle de son appartenance à Dieu, celle d'être assujetti au divin tout-puissant. Or, par ailleurs, Paul adopte un point de vue inverse. Il dénonce tout aussi longuement cette tentation que les hommes ont par leur recherche de sagesse terrestre de ce monde, de faire de Dieu une toute-puissance, un Dieu Yahou des orages et de la foudre. Je cite 1 Corinthiens 1, 22. Les Juifs demandent des signes, c'est-à-dire des miracles, et les Grecs recherchent la sagesse, c'est-à-dire la philosophie. À ce Dieu-là, bien sûr, l'homme est son serviteur. À la différence des rédacteurs de l'Ancien Testament, Paul connaît à la fois la philosophie grecque et la pensée juive. Il en sait les limites et fustige la sagesse des hommes comme une absurdité aux yeux du Seigneur. Je cite, « Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Le Seigneur connaît les pensées des sages et il sait qu'elles sont creuses. Si quelqu'un parmi vous se croit sage à la manière de ce monde, qu'il devienne fou pour être sage. » Arrêtons-nous sur le qualificatif « sage ». Paul dit « sage », mais il rajoute « sage à la manière de ce monde ». Mais alors, quelle fausseté dénonce-t-il exactement dans cette sagesse? Et pourquoi faudrait-il prendre cette sagesse humaine à revers pour plaire à Dieu? Je cite Corinthiens 1, 1, 23. « Mais nous, nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs. Folie pour les païens. » Voilà comment Paul dénonce la soif de transcendance, la recherche de la puissance de Dieu. Il montre que Dieu incline à la faiblesse, qu'il est murmure, que c'est une brise au cœur de chacun. Bien, résumons-nous. Paul dit que Dieu n'est pas dans la sagesse des hommes, parce que cette philosophie-là représente le divin comme un tout-puissant que l'on doit craindre. Puis, sans transition, il affirme que nous appartenons à Dieu en tant que, je cite, « des serviteurs du Christ et des intendants des mystères de Dieu ». Or, ce qu'on demande en fin de compte à des intendants, c'est de se montrer fidèle. Face à cette contradiction, je suis retourné au texte original, le texte grec, se situant au plus près de la date de la mort de Jésus, et dont on peut raisonnablement escompter qu'il n'a pas été trop modifié. Que ce soit dans le texte du Novum Testamentum grec utilisé par le Nouveau Testament interlinéaire grec-français de la Société biblique française, ou bien encore dans la traduction alternative du pasteur Maillot dans ses commentaires de la première épître aux Corinthiens, aux éditions Réveil, page 73, que peut-on lire concernant ce passage? Déjà concernant la phrase « Tout est à vous, mais vous êtes à Christ et Christ est à Dieu », on voit que la forme employée par Paul est un génitif. Or, le génitif a ceci de particulier, que c'est une forme complexe, brève et ambiguë. Ainsi, au lieu de « a », on peut très bien traduire « de ». Au lieu de « a », on peut très bien traduire « de ». On obtient alors la phrase suivante, « Tout est de vous ». Vous êtes de Christ, et le Christ est de Dieu. D'autre part, le mot « mais », placé à la suite de « tout est de vous », et qui induit un sens réducteur de type « n'oubliez pas que vous êtes à Christ », ce « mais » donc n'est pas présent dans le texte grec. Et pour finir, le mot « serviteur » lui, est traduit par assistant. Ainsi, la relecture de ce passage devient comme suit. Le Seigneur connaît la pensée des sages. Il sait qu'elles sont vaines, ainsi que personne ne fonde sa fierté sur des hommes. En effet, tout est de vous, que ce soit Paul, Apollos ou Céphas, le monde, la vie ou la mort, le présent ou l'avenir, tout est de vous. Vous êtes de Christ. Le Christ est de Dieu. Que l'on nous considère donc comme des assistants de Christ et des intendants des mystères de Dieu. Que l'on comprenne le deux comme désignant l'essence des êtres, leur nature profonde, ou tout aussi bien leur origine, ce qui les a créés. Dans les deux cas, la contradiction du texte a disparu. Nous sommes en présence d'une pensée ample, globale, dans l'esprit de celle que nous trouvons par ailleurs chez Paul. Bon, cette histoire de lettré, c'est très bien, mais ça change quoi pour nous? Ben, ça change pas mal de choses. Si Dieu, contrairement à la sagesse des hommes, n'est plus un Dieu de puissance, mais un Dieu de faiblesse. Si ça n'est plus un Dieu tonitruant, mais un Dieu de murmure. Alors Dieu ne s'impose plus, il s'infiltre. Il s'infiltre sans bruit dans chaque interstice. À nous de le reconnaître. Dieu n'est pas le Dieu du frontal, c'est celui de l'entrebâillement. Celui qui nous demande de l'assister est un Dieu intérieur, un Dieu de l'intime, du ressenti, du sentiment. Voilà, avec Paul, nous passons d'une conception d'un Dieu dominateur dont nous serions les serviteurs et qui nous récompenserait selon nos mérites, à un Dieu du murmure, infiniment bon, qui nous donne sa grâce sans compter et nous accepte parce que nous participons de lui et que nous participons de sa création. À travers Christ, nous sommes de Dieu. Mais si nous sommes de Dieu, alors nous ne sommes pas différents de sa création. Nous ne sommes nous-mêmes qu'une partie de sa création. La nature, en tant qu'entité autonome, n'existe pas davantage que nous sans elle. Nous sommes notre propre environnement. En réalité, nous sommes la nature. Avoir perdu cette compréhension du divin nous a faussement placés en dehors du monde, en dehors du sens des choses. Nous concevoir en tant qu'humain autonome nous a apporté indéniablement une forme de liberté. Mais nous avons aussi par là même organisé notre propre aliénation, la perte du sens de la création divine. Depuis, nous sommes gagnés par le sentiment du vide, de l'absurde, si bien décrit par Albert Camus. Est-ce notre conscience qui nous fait redouter la mort? Ou bien plutôt notre absence de conscience véritable qui nous cache le plan divin et nous laisse face à l'inconnu? La vacuité. La perte de sens nous éprouve parce que nous ne nous sentons plus faire partie pleinement de la création. Est-ce que c'est parce que l'homme n'a plus aimé le monde qu'il ne sait plus aimer lui-même, ou bien l'inverse? Pourtant, c'est simple. Il suffit d'accepter ce dont nous n'avons pas l'habitude. C'est simple, mais ça n'est pas facile, car nous voici dans un autre rapport au divin. Paul nous montre la voie. Ce n'est plus une appartenance. Nous ne dépendons pas de Dieu, mais baignés dans son prodigieux ouvrage, nous faisons alors partie de l'univers au même titre que tout le reste de sa création. Notre justification, notre reconnaissance par Dieu devient sans objet. Il nous a créés et nous a donné sa grâce. Nous ne sommes pas des serviteurs, nous sommes une extension de lui-même. Bien sûr, ça n'est pas une raison de se prendre pour Dieu. Mais notre rapport au divin peut-être tout autre. Dieu nous traite en adultes. Il ne nous soumet pas, il ne nous infantilise pas. À nous de trouver notre juste place. Bien entendu, nous restons responsables devant lui de nos pensées et de nos actions, d'autant qu'il nous demande de l'assister. Mais nos actions s'inscrivent tout naturellement dans l'environnement qu'il a créé. Dans cette compréhension, nous n'envisageons plus l'homme et Dieu, ni l'homme est la nature. Nous sommes juste une partie de la nature, tout comme le reste de la création divine. L'homme reprend harmonieusement sa place, une place qu'il n'aurait jamais dû quitter. Il y a du boulot, pas vrai ? Je me souviens de cette anecdote racontée par un des premiers explorateurs anglais du Groenland. Un jour, assis à côté d'un Esquimau du pôle Nord, il avait machinalement jeté un petit caillou au loin. L'Esquimau lui avait alors demandé pourquoi il avait fait cela. Incapable de répondre, l'explorateur s'était alors vu sermonné par son compagnon qui lui avait déclaré « Mais cette pierre ne t'a rien fait. Pourquoi la jettes-tu ? » Loin de moi l'idée de vouloir généraliser une pensée de type animiste, mais le fait de considérer que tout ce qui nous entoure est issu du divin, donc tout ce qui nous entoure a un sens, fait disparaître à la fois le vide de sens et l'absurde qui l'accompagne. Dès lors, inutile de chercher. Il suffit d'accepter le vide pour faire disparaître le vide de sens. En réalité, le sens du monde est partout visible. Mais il y a un piège. Il ne se rend visible que lorsqu'on a cessé d'en ressentir le besoin. Il en est du sens du monde comme il en est du bonheur. Fondé sur le désir ou fondé sur le manque, le voilà qui disparaît à l'horizon. Dans cette optique, tout ce qui nous entoure revêt un sens, pourvu qu'on y voit la main du Créateur. Or, cette main-là, nous ne pouvons la concevoir qu'à l'intérieur de nous-mêmes. D'ailleurs, cette position de l'intériorité de Dieu réapparaîtra 30 ans plus tard chez Luc, qui fait dire à Jésus 17:21 que le règne de Dieu est entos humon, c'est-à-dire au-dedans de nous. C'est en nous-mêmes que nous pouvons sentir la présence de Dieu. Dieu est partout, il s'exerce partout, c'est alors que nous participons pleinement de lui. Ça n'est pas une présence étrangère qui nous serait imposée. Réjouissons-nous, nous sommes de Dieu, dit Paul. Quelle infinie gratitude pour celui qui nous relève de la poussière et nous fait grandir dans sa conscience et dans sa lumière. Réjouissons le Seigneur lorsque, de temps à autre, nous sommes pleinement avec lui, avec sa création. De te fabula narratur. C'est de toi que parle ce récit. C'est juste un peu dommage que je ne sois pas plus zélé comme assistant. Humain, juste humain. Merci Seigneur. Amen.
Se lever pour chanter le cantique 4505 à la page 683, les trois premières strophes uniquement.
Oh.
Voici le moment de l'offrande. Que chacun donne selon ce qu'il a décidé en son cœur, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Père, inspire-nous, jour après jour, des gestes d'offrande. Que celle-ci soit un signe de notre engagement à ton service. Amen. Et voici le temps des annonces. C'est Pierre qui va chercher son papier.
Bonjour à chacun de vous. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à Christophe et Olivier qui conduisent ce culte, et à Pierrick et Sophie qui vous ont accueillis ce matin. Merci à Marie-Vonne et puis à Théophile pour le beau morceau au violoncelle tout à l'heure. Et puis merci pour la personne qui a apporté les fleurs. Merci à Christine. Voilà. Cette semaine, donc c'est le temps de vacances se termine, donc notre pasteur sera là dès mardi. Je vous rappelle, lundi c'est son jour de congé. Voilà. Et sinon, le mardi il y a la chorale à 19h15 et mercredi la prière à 18h. Voilà, nous continuons dans la lecture partagée à lire l'épître qu'on a lu ce matin. Donc on en est à peu près au même endroit, au chapitre 3. Dimanche prochain, c'est culte de famille, donc il y aura tous les enfants qui seront là. Et je vous dis dès maintenant, le dimanche d'après, il y aura un culte le samedi à 18h pour ceux qui veulent. Et puis le lendemain, ça sera le jour de l'Assemblée Générale, donc le 17. Donc le 17, le culte est avancé, est à 9h30. Voilà. Pendant que je suis dans l'Assemblée Générale, donc cette semaine, les envois par mail ont été faits, ainsi que les envois papier pour ceux qui n'ont pas de mail. Il y a Frédéric, le 1er mars, qui m'a envoyé un petit message pour dire qu'il n'y avait que 58% des messages qui avaient été ouverts. Donc si vous ne l'avez pas vu dans votre boîte mail, n'hésitez pas à aller voir dans les notifications ou dans les spams, peut-être qu'il a pris un mauvais chemin. Mais voilà, donc et si vous ne l'avez vraiment pas reçu, venez nous voir, qu'on puisse vous donner une feuille en papier. Voilà. Toujours pour l'Assemblée Générale, donc c'est dans 15 jours, donc il y a les rapports d'activités financiers qui sont disponibles à l'accueil, si vous souhaitez les lire avant l'Assemblée Générale. Voilà. Et dans la semaine, pas celle-là, mais celle d'après, il y a aussi les amitiés judéo-chrétiennes à 20h à la Puya, le mercredi 13. Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, pas parole partage, le 9 mars, ah oui.
Samedi 8 mars, 18h30.
D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est, pas parole partage, PPP. Ah ben, c'est le groupe des jeunes de la paroisse, oui, oui. Donc, c'est la veille du culte famille, oui, donc c'est normal, effectivement. Oui, oui, mais c'est bien ça. Oui, oui, c'est pour tout le monde. Voilà, et j'ai entendu ce matin en venant à la radio que c'était la fête des grands-mères, donc bonne fête à toutes les grands-mères. Ah, j'ai oublié quelque chose.
Oui, le carême, troisième session, troisième conférence, et vendredi matin, la réunion du conseil d'administration du CERA. Et puis pour l'amitié judéo-chrétienne, c'est Jean-Marc Ventre qui présentera sa conférence.
Tu veux répéter au micro? Vas-y, redis tout ça au micro.
Bonjour à chacune et à chacun. D'abord, vendredi matin, réunion du conseil d'administration du service d'entraide. Ensuite, troisième session, troisième conférence du carême protestant à 16h sur France Culture, mais qui peut être, pour celles et ceux qui ne peuvent pas l'écouter en direct, qui peut être réécouté à vie, parce qu'en fait c'est disponible à vie. C'est présenté cette année par un des quatre aumôniers de la fondation John Bost, extrêmement intéressant. Et puis pour le mercredi 13 à 20h à la Puya, c'est Jean-Marc Ventre qui présentera la conférence sur Hillel, un maître du judaïsme, un des principaux maîtres du judaïsme, Hillel, l'amour du prochain avant Jésus. Hillel, c'était un contemporain de Jésus.
Alors, j'invite Sophie à nous rejoindre à la table.
Seigneur, Seigneur, nous te louons parce que tu nous aimes et que nous sommes tes enfants. Nous te louons pour Jésus-Christ vivant au milieu de nous. Nous te louons pour l'Esprit-Saint qui nous rassemble malgré nos différences et qui fait de nous un seul peuple, ton peuple. Oui, nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans le royaume, dans la joie de ton royaume. Et nous chantons ta gloire. Alléluia. Le troisième jour, après sa mort, deux de ses disciples se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils approchèrent du village et lui fit mine d'aller plus loin. Ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir vient et la journée est déjà avancée. » Et il entra pour rester avec eux. Et quand il se fut mis à table avec eux, il prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent, puis il leur devint invisible.
Prions. Dieu notre Père, nous te disons notre reconnaissance de ce que ton Fils est passé de la mort à la vie. Voici donc le pain de la vie, la coupe qui témoigne du salut. Père, fais surgir maintenant ta vie parmi nous. Envoie ton esprit sur ton Église. Que ce pain soit pour nous le corps de ton Fils. Que ce vin soit pour nous le sang de ton Christ. Que cette communion nous appelle à confesser en parole et en acte que Jésus-Christ est le Seigneur. Regarde notre vie. Tu connais les richesses qui s'y trouvent déjà, mais tu sais aussi nos faiblesses. Aussi, nous te le demandons. Fais venir ton esprit vivant, qu'il nous délivre de tout esclavage. Ainsi, nous pourrons vivre pleinement ton amour au milieu des hommes, nos frères. Ô Père, nous portons à ton attention les hommes de ce monde, en particulier ceux qui souffrent, que ce soit de la guerre, de la faim, de l'injustice. Nous te confions les communautés chrétiennes, ainsi que ceux qui y assument un ministère. Nous te recommandons tous ceux que nous ne connaissons pas encore. Puissions-nous, au dernier jour, être réunis dans ta joie. Puissions-nous chanter ta gloire avec tous ceux qui seront rassemblés dans la paix de Jésus, le Christ, vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Permets-nous de redire avec une ardeur renouvelée la prière que tu nous as enseignée. Notre Père,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne soit manifesté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Le spontané, nous partageons un même pain. Invite à prendre la scène avec lui et à la partager les uns avec les autres. Ainsi, selon la tradition de notre Église, toutes et tous sont invités, ce repas ne nous appartient pas, il n'est la propriété d'aucune Église, il nous est offert par grâce, par Christ, le Seigneur du monde. Par ce repas, nous confessons notre foi en Christ, c'est-à-dire que nous reconnaissons Jésus comme Seigneur de nos vies, et que nous nous savons enfants de Dieu, notre Père à tous, et que nous essayons de mettre nos vies au service de la parole de Dieu. Nous vous invitons à former un cercle autour de la table de communion.
J'aimerais bien que le cercle se fasse devant les bancs. Et du coup, il faut que ce soit un peu serré sur les bords. Hein.
Ah oui, c'est très bien. C'est pas fini, hein, ça fait. Si toutefois vous ne désirez pas participer au pain et au vin de la scène, n'hésitez pas à prendre place dans le cercle pour vous associer à la communion. Les accueillants distribuent le pain et les gobelets individuels de jus de raisin. Faites simplement un signe, un sourire, un regard, si vous ne souhaitez pas prendre le pain ou le vin. Vous, bien sûr, vous êtes aussi libre, si vous le préférez, de rester assis à vos places. Voici le pain de vie. Celui qui mange de ce pain n'aura plus jamais faim. Voici la coupe de la nouvelle alliance. Celui qui boit au Fils a la vie éternelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu te soucies du jardin de notre terre. Merci, parce que chaque jour, tu sèmes avec patience et persévérance, sans jamais désespérer. Malgré la dureté du chemin, le nombre des cailloux ou l'importance des épines. Merci, parce que tu y crois toujours. À ce bout de bonne terre. Donne-nous, Seigneur, ce regard nouveau pour les autres, capable de découvrir en chacun d'eux, au-delà des épines, ce petit coin de terre, plein de promesses et d'espérance. Amen. C'est une prière de Monique Gisselbray. Et je vous invite à vous lever, vous êtes déjà debout, donc c'est compliqué. Pour recevoir la voix et la bénédiction de la part du Seigneur avec un texte de Sœur Myriam. Dans ta poche droite, dépose un bois sur lequel sera écrit « Je suis fils de prince ». Dans ta poche de gauche, dépose un bois sur lequel sera écrit « Je suis poussière ». Puis marche dans la vie, et ne perd jamais ni l'un ni l'autre.
Que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit vous bénisse, vous accompagne et vous protège tout le long de votre vie. Allez en paix. Amen.
Et nous chantons en chantant le dernier spontané, la paix du Seigneur.
À tous. Yeah.